Bonjour à tous et à toutes, pour ceux que j'ai pas salués ce matin. Je suis content d'être avec vous. Est-ce que ce matin, vous avez eu peur ou est-ce que vous étiez confiant avant de venir avec la neige qui est tombée, avec le verglas? Est-ce que vous aviez confiance ce matin? Bof? Non? Est-ce que vous aviez confiance que la route serait dégagée? Oui. Elle n'était pas. La prière, c'est un sujet extrêmement vaste. Et l'Église a beaucoup reçu lors du week-end d'Église, au mois d'octobre dernier. Et parmi tout ce qu'elle a reçu, une des choses qui est ressortie plus particulièrement, c'est l'importance de la prière. Si nous connaissons tous l'importance de la prière, parce que la prière nous accompagne nécessairement dans notre vie chrétienne, si nous connaissons l'importance de l'intercession, je crois que nous avons été interpellés plus particulièrement pendant ce week-end par l'importance de la prière pour avancer dans nos projets. Projet d'église, projet bâtiment. Sans la prière, il n'est pas possible d'avancer. Vous connaissez tous ces paroles de Jésus. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus dit demandez, cherchez, frappez. La prière, c'est d'abord une invitation à nous tourner vers Dieu et à s'attendre à lui dans une entière persévérance. Et Jésus répond à cela: vous recevrez, vous trouverez, on vous ouvrira. La prière, c'est aussi l'assurance, et Jésus nous le dit, l'assurance de l'action de Dieu. La prière, c'est donc une association avec Dieu, car une vraie prière est une communication à deux sens. C'est un dialogue entre Dieu et l'homme et non un monologue. Et ça, il faut en être certain. La prière, c'est pas je m'adresse à quelqu'un vaguement parce que je pense que peut-être éventuellement il m'écoute. Non. La prière, c'est un dialogue. C'est plus qu'une écoute. C'est un dialogue. La prière implique que l'homme parle à Dieu et que Dieu parle à l'homme en retour. Simplement dit, la prière, c'est pour nous le moyen de devenir partenaire de Dieu pour que sa volonté soit faite dans nos vies et sur la terre. C'est même déclarer la volonté de Dieu. La prière implique donc que nous recherchions Dieu et sa volonté de tout notre cœur. La parole nous dit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce verset qui se trouve en Jérémie 29 nous dit que Dieu invite explicitement son peuple à le prier. Et de manière plus particulière, ce verset nous encourage à rechercher Dieu de tout notre cœur. Alors je voudrais aujourd'hui vous faire considérer dans ce temps que nous avons quelques minutes, considérer que la prière tient une place primordiale pour chacun, pour l'Église et plus particulièrement pour l'avancement de nos projets. Et à ce titre, il est important de donner toute sa place à la prière. Je vous propose qu'on regarde ce matin trois aspects de la prière. La prière, c'est l'expression de notre confiance en Dieu. La prière nous fait entrer dans une communion plus profonde avec Dieu. Et la prière, c'est aussi prendre part à l'œuvre de Dieu dans le monde. Prendre part à l'œuvre de Dieu dans le monde. Alors je vous invite à lire ce matin deux courts versets dans l'épître de Jude. L'épître de Jude, vous savez, c'est cette épître qui se trouve juste avant l'Apocalypse, avant le livre de l'Apocalypse. Donc c'est le dernier livre, la dernière lettre plus précisément, et elle ne contient qu'un seul chapitre. Et d'ailleurs, je vous invite à lire ce chapitre parce qu'il est extrêmement puissant. Je vous invite à lire dans l'épître de Jude, dans l'unique chapitre, bien évidemment, de la lettre, et nous lirons les versets 20 et 21. Jude écrit « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. » Deux courts versets. Ce matin, ces deux versets me serviront de socle pour parler de ces trois aspects de la prière. Alors Jude se nomme lui-même au début de sa lettre « serviteur de Jésus-Christ » et il écrit ces quelques versets à l'intention des frères de l'Église. Comme il le dit lui-même, il salue ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et cette lettre, c'est l'occasion pour Jude de mettre en garde les chrétiens à cette époque contre ceux qui n'ont aucun respect de Dieu et qui s'infiltrent dans les églises, détournent la vérité et renient Christ, le seul maître et Seigneur. C'est l'occasion de mettre en garde et de dire aux chrétiens, voilà, gardez les yeux fixés sur Jésus, sur lui seul. Il dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il écrit ces deux versets au début, au verset 3 et 4. Jude dit qu'il s'est senti obligé de le faire afin de les exhorter à combattre pour la foi. Afin de combattre le bon combat, comme dirait Paul, celui de la foi. Jude encourage donc vivement les frères de l'Église à vivre une vie chrétienne dans le bon sens, attachée à Jésus-Christ. Et à ce titre, il donne ces deux versets puissants que nous venons de lire. Alors, en quoi consiste une vie chrétienne dans le bon sens? C'est une marche dans le Seigneur. Une vie bâtie sur la foi en Jésus-Christ, cette foi très sainte. Une vie aussi de prière, prier pour se maintenir dans l'amour de Dieu. Alors la prière s'inscrit pleinement dans cette marche. La prière s'inscrit pleinement dans ce bon sens de la vie chrétienne. Et ici, Jude invite donc les frères à vivre une vie dans le Seigneur au travers de plusieurs choses essentielles dont la prière fait partie. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, dit Jude. Bâtissez votre vie. Et ces paroles, nous les retrouvons dans la bouche de l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrit à l'église de Colosse, il dit « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. » L'apôtre Paul dit la même chose. « Bâtissez votre vie en Christ. Édifiez-vous sur la foi en Christ. » Et c'est ici la traduction pour dire « construire, bâtir dessus ». Donc, construire la structure dont la base a déjà été faite. Et cette base, ce fondement qui a déjà été fait, dont il est question, c'est la foi. Jude encourage donc les chrétiens à bâtir leur vie sur la foi en Christ. C'est ce socle solide. Et c'est pour chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur, la bonne voie, l'orientation à suivre pour sa vie. Bâtir sur la foi. Et Jude associe à cet encouragement et priant avec l'aide de l'Esprit. Cette dimension de la marche du chrétien est une nécessité. Et finalement, il n'est pas surprenant de voir ces deux notions, bâtir sa vie dans la foi et prier ensemble. Les deux sont finalement intimement liés. La prière, c'est ce qui fait partie prenante de ma vie chrétienne. Personne ne peut vivre une vie dans la foi sans y associer une vie de prière. Et une prière avec l'aide de l'Esprit. La prière avec les supplications, les actions de grâce, comme Paul le dira à Philippiens, faites en toute occasion, Voilà le grand moyen qui donnera une arme puissante dans le combat de la foi et dans notre marche avec le Seigneur. Et Paul dira, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire votre intelligence, mon intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La prière et la foi vont de pair dans la marche chrétienne. La prière, c'est l'expression de notre confiance en Dieu. Et c'est un moyen par lequel notre confiance en lui peut augmenter. Prier, c'est placer notre confiance en Dieu plus qu'en nous-mêmes. C'est reconnaître notre besoin de Dieu et que lui seul peut répondre selon ce qui est bon pour notre vie. Et finalement, prier, c'est accepter que la réponse de Dieu sera différente de la mienne. Avoir confiance à Dieu, c'est pas simplement avoir confiance que Dieu va répondre à ma prière. C'est avoir confiance que sa réponse sera peut-être différente de la mienne, de celle que j'aurais voulu. Ce que la Bible souligne davantage lorsqu'elle parle de la prière, c'est le fait de cette confiance nécessaire en Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, dira l'apôtre Paul, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Jésus dira, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. S'approcher de Dieu avec confiance, demander avec confiance. La confiance est elle aussi intimement liée à la prière. La première chose donc, que je voulais souligner ce matin, cet aspect important, c'est que la prière, c'est l'expression de notre confiance en Dieu. Et c'est un moyen par lequel notre confiance en lui peut augmenter. La prière ne peut pas être à ce titre occasionnelle, bien évidemment, parce qu'elle doit être constante. Elle doit accompagner ma marche avec le Seigneur. Prier occasionnellement, c'est finalement passer à côté de la mise à l'épreuve de ma confiance. De ma confiance en Dieu. Et c'est un défi pour chacun. Mais quand nous voyons combien la prière doit accompagner ma marche avec le Seigneur, nous voyons toute la place qu'elle doit prendre. Si je dois bâtir ma vie sur la foi en Jésus-Christ, j'ai besoin de la prière. Parce que j'ai besoin que ma prière soit mise à l'épreuve, que ma vie soit mise à l'épreuve, que ma foi soit mise à l'épreuve. Elle le sera dans la prière. La prière, ensuite, nous fait entrer dans une communion plus profonde avec Dieu. Jude dit de se maintenir dans l'amour de Dieu, de s'y maintenir. Il dit littéralement, dans une traduction, « Vous édifiant vous-même sur votre foi très sainte et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Cette dimension de l'amour est essentielle dans la vie chrétienne. Conserver son cœur dans l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'occuper soigneusement, prendre soin de garder son être en Dieu. Dieu souhaite que nous l'aimions et que nous soyons en communion avec lui. Cette dimension de la communion dans l'amour est très importante. Dieu ne souhaite pas que nous soyons en relation avec lui à distance. Il souhaite que nous l'aimions et que nous soyons en communion avec lui, que nous demeurions avec lui. Jésus dit en Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Il dit quoi ? « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus ne dit pas « Si occasionnellement vous vous approchez de moi, à distance, et si vous restez à bonne distance, demandez. » Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Demeurez en Christ. Demeurer en Christ, en communion dans son amour, est primordial. Demeurer, ici, c'est le sens de rester en référence à l'endroit. Séjourner à l'endroit, à l'opposé de s'éloigner, à l'opposé de rester à distance. Donc une vie constante dans le Seigneur qui est l'endroit particulier de notre subsistance. Rester à l'endroit, c'est-à-dire garder notre être en Dieu. S'édifier dans la foi et prier sont deux moyens pour se maintenir dans l'amour de Dieu. La prière participe au même titre que la foi à nous faire entrer dans une communion plus profonde et constante avec Dieu. Et si nous sommes en communion plus profonde avec Dieu, alors nous saurons plus particulièrement rechercher sa volonté et non la nôtre. Il y a ce double effet. Plus nous prions et plus nous exerçons notre communion avec le Seigneur, et celle-ci s'en trouve plus profonde. Plus notre communion avec le Seigneur est profonde, et plus notre vie de prière se trouve nécessairement imprégnée de sa volonté. Il y a un double effet. Dans sa lettre, dans sa première lettre, Jean écrit : nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Demander quelque chose selon sa volonté, c'est entrer nécessairement dans une communion plus intime avec le Père. Vous savez, c'est un peu comme dans un couple. Lorsque nous nous marions, ce n'est pas pour vivre à distance. Ce n'est pas pour nous connaître en périphérie. Mais c'est bien pour faire un. Pour nous connaître plus particulièrement dans une communion intime l'un et l'autre. Et lorsque nous nous connaissons plus particulièrement, nous connaissons alors plus facilement la volonté de l'autre, la volonté de celui qui m'est cher, de celle qui m'est chère. Et en connaissant sa volonté, la mienne s'en trouve aussi changée. Puisque ce n'est pas seulement ma volonté que je fais, mais c'est la volonté de celui avec ou celle avec qui je suis. Ma volonté se trouve changée, transformée, façonnée aussi au travers de la volonté de l'autre. Et je rentre même dans sa volonté. La deuxième chose que je voulais vous faire considérer ce matin, ce deuxième aspect, c'est que la prière nous fait entrer dans une communion plus profonde avec Dieu. Et elle nous amène à rechercher sa volonté et non la nôtre, à discerner sa volonté pour nos vies. Et là aussi, c'est un défi. C'est un défi. Mettre à l'épreuve ma confiance en Dieu, c'est un défi. Vivre en communion plus profonde avec Dieu, c'est un défi. Mais c'est ce que le Seigneur souhaite. Il ne souhaite pas que nous ayons une vie à distance. Il veut que nous rentrions en communion avec lui. Et la prière a toute sa place pour cela. Il y a une troisième dimension que je voudrais vous faire considérer ce matin. Par la prière, nous prenons part à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous croyez cela ? Est-ce que vous croyez qu'il est possible que par la prière, nous participions à l'œuvre de Dieu ? Bien, cette dimension implique l'action de l'Esprit dans la prière. Et d'ailleurs, Jude parle simplement, dans ces deux versets, il parle de l'Esprit. Il dit « Priez par l'Esprit ». Priez par l'Esprit. Paul dira aussi à l'église d'Éphèse, il dira « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit ». Sous la conduite, avec l'aide et l'assistance de l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit dans la prière. Et vous connaissez cette parole de Paul qui nous parle justement de cette action de l'Esprit dans nos prières. Romains 8, verset 26, Paul dit de même, « L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. » Lorsque nous prions, l'Esprit vient nous aider, il vient à notre aide. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède. Vous connaissez ce verset ? L'Esprit vient à notre aide dans la prière. Nous sommes convaincus que lorsque nous prions, l'Esprit agit en nous. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à considérer lorsque nous abordons la prière, c'est l'action de l'Esprit en nous. Si nous savons que lorsque nous parlons dans la prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu, nous devons être aussi convaincus que l'Esprit de Dieu agit en nous. La parole nous le dit. L'Esprit vient à notre aide. Il agit en nous. Et s'il y a bien un endroit, un moment, une occasion particulière où l'Esprit agit, c'est bien dans la prière. La prière, c'est ce champ, cet espace de l'action de l'Esprit dans nos vies. Si nous ne prions pas, nous fermons un espace, un champ d'action de l'Esprit. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans dans le passage que nous venons de lire, dans ces deux versets, c'est que Jude, dans deux versets simples, parle de l'action trinitaire de Dieu. Des aspects de l'action trinitaire de Dieu, bien sûr, ce n'est pas un résumé. Mais il dit, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde la vie éternelle. Dans deux versets, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit réunis. Il parle de se maintenir dans l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a témoigné de son amour en nous envoyant son Fils. Il parle de la vie éternelle accordée par Jésus-Christ, cette vie éternelle que nous avons pour celui qui croit en Jésus. Et Jude parle aussi et encore de l'Esprit. Lorsqu'il parle de l'œuvre de l'Esprit, ici, il l'associe à la prière. Prier par l'Esprit. L'Esprit de Dieu agit tout particulièrement dans nos vies et il agit puissamment dans la prière. C'est par l'Esprit que nous sommes invités à prier. Et si c'est par lui, c'est que la prière est un lieu, un moment particulier de l'action de l'Esprit. L'Esprit agit en nous pour notre propre vie, pour nous orienter, pour nous faire grandir dans le Seigneur. Mais il agit aussi en nous pour orienter notre service, nos actions pour l'œuvre de Dieu. Et là, il y a une dimension intéressante à considérer, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Sans l'Esprit, nous savons qu'il n'est pas possible d'agir selon la volonté de Dieu. Et nous connaissons l'importance de l'œuvre de l'Esprit dans le monde. Jésus l'appelle l'Esprit de vérité qui vous conduira dans la vérité. Lorsque Jésus parle à ses disciples de la venue du Saint-Esprit, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vient pour conduire les personnes dans toute la vérité de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit est très précisément tourné vers les personnes, pour les conduire à Dieu, les renouveler, les faire vivre et les faire grandir en Dieu. Le Saint-Esprit travaille à plusieurs niveaux, pour témoigner, pour convaincre, pour transformer, pour faire vivre, pour équiper, pour orienter nos vies vers Jésus. Le Saint-Esprit agit aussi pour notre service dans l'Église, pour le témoignage. Prier avec l'aide de l'Esprit, c'est considérer l'action de Dieu dans nos vies et pour la vie des autres, et donc pour l'Église. L'Esprit agit en nous pour réaliser pleinement le plan parfait de Dieu pour nos vies et l'humanité. Lorsque nous prions, Dieu ne répond pas à nos prières parce que ça nous fait plaisir. Comme une machine où on mettrait 1 euro dedans et pour dire « Voilà, Seigneur, je voudrais ça », on tire dessus et on l'obtient. Si nous prions, c'est que nous demandons la volonté de Dieu, c'est que nous demandons son aide, c'est que nous demandons son assistance. Donc c'est bien pour que sa volonté, c'est bien pour que son plan pour notre vie, pour notre Église, pour le monde se réalise. En priant avec l'aide de l'Esprit, Dieu agit en nous et nous donne concrètement de prendre part à son action dans le monde. C'est par nous qu'il a plu à Dieu d'annoncer et de participer à l'avancement de son royaume. Eh bien, l'Esprit Saint agit en nous pour être partie prenante de l'œuvre de Dieu dans le monde. Cela veut dire que quand nous prions, l'Esprit va nous conduire à considérer le sens de Dieu pour notre vie et pour l'Église. Lorsque nous prions, nous ne nous attendons pas simplement à Dieu, mais l'Esprit va agir en nous pour que nous considérions le sens de Dieu. Ce qui est bon, ce qu'il veut pour notre église de Clermont-Ferrand, ce qu'il veut pour cette ville de Clermont-Ferrand. La troisième chose dont je voulais souligner ce matin, c'est que lorsque nous prions, nous faisons avancer l'œuvre de Dieu sous la direction de l'Esprit. Non pas par nous-mêmes, mais parce que l'Esprit agit en nous. Vous savez ce qu'écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 3, verset 22, il écrit « Pour celui qui croit », c'est un verset extrêmement puissant, « Pour celui qui croit, il y a la confiance que l'Esprit de Dieu agit en nous. » Pour celui qui croit, il y a la confiance que l'Esprit de Dieu agit en nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous mettez en prière, bien sûr avec un cœur sincère, que vous recherchez le Seigneur, eh bien l'Esprit de Dieu agit en vous. Et donc nécessairement, quelque chose se passe. Quelque chose se réalise, quelque chose de concret. Nous venons de voir trois aspects importants de la prière et qui ont un impact réel et direct sur nos vies, pour l'Église et pour l'avancement du règne de Dieu. La prière, c'est l'expression de notre confiance en Dieu. La prière nous fait entrer dans une communion plus profonde avec Dieu. La prière, c'est prendre part à l'œuvre de Dieu pour le monde. La prière, c'est l'expression, nous l'avons vu, de notre foi en Dieu, et c'est donc un moyen par lequel notre foi est mise à l'épreuve. Prier, c'est exercer nécessairement sa foi en lui. C'est décider que je me tourne vers Dieu plutôt que vers moi-même. C'est aussi considérer que Dieu devient mon rémunérateur, c'est celui que je cherche. Si nous ne mettons pas notre foi à l'épreuve dans la prière, comment faire confiance à Dieu lorsqu'il y aura des défis devant nous? Est-ce que nous attendons que les défis surgissent pour prier? Mais nous avons besoin de mettre cette confiance à l'épreuve dès à présent. Parce que vous le savez, les défis sont devant nous. Il y en a pour notre propre vie personnelle, mais il y en a pour l'Église. Il y en a pour cette ville. Il y a des défis pour cette ville. La prière nous fait entrer dans une communion plus profonde avec Dieu. Nous l'avons vu, si nous sommes en communion plus profonde avec lui, alors nous saurons plus particulièrement rechercher sa volonté et non la nôtre. Si nous ne prions pas, comment rentrer en communion avec lui et connaître sa volonté? Comment avancer dans nos projets sans rentrer dans une communion plus particulière avec le Seigneur, afin de rechercher, afin de soumettre et de fonder nos projets dans ce que lui veut, dans ce qu'il souhaite pour notre vie et pour l'Église. La prière, enfin, c'est prendre part à l'œuvre de Dieu. Et ça, je crois vraiment que c'est une action particulière qui parfois peut nous échapper. Si Dieu nous répond dans la prière, il peut nous apporter des réponses qui sont totalement différentes à ce que nous avions pensé au départ. Il peut orienter nos décisions. Il peut orienter nos décisions selon sa volonté, selon ce qui est bon et juste. Ainsi, la prière nous donne l'occasion d'être engagés de manière significative dans l'œuvre de Dieu pour le monde. Si nous ne prions pas, comment agir de la façon dont Dieu veut pour notre Église, pour notre ville de Clermont-Ferrand? Nous risquons de passer à côté de sa volonté, de son plan. Tout au mieux, nous penserons que ce que nous faisons est bon. Mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Comment avancer donc dans nos projets sans laisser l'Esprit agir en nous et faire de nous le champ de l'expression de Dieu? Alors si nous mettons ces trois aspects ensemble, exercer notre confiance en Dieu, entrer dans une communion plus particulière, être le champ de l'œuvre de Dieu, si nous mettons ces trois aspects au cœur de notre vie de prière personnelle, de prière en Église, alors nous réaliserons combien Dieu agit. Soyez-en certains. Nous avons pris acte en Église et au Conseil de l'importance de la prière. Vous allez me dire, on ne s'est pas réveillé un matin en nous disant « la prière est importante ». Nous savons tous que la prière est importante. Et nous l'avons réalisé aussi, et nous le réalisons tous les jours. Mais je crois que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons dit, pas simplement dit, nous avons pris la décision en Église, en tant que responsable d'Église, de mettre la prière au centre de la vie de l'Église. Et ça change tout de dire et de prendre la décision. Parce que tous les jours, nous pouvons dire « la prière, c'est important » et ne pas le faire. Peut-être prier occasionnellement, mais sans croire véritablement que c'est important. Et il y a autre chose, c'est autre chose que de dire « je prends la décision ». Et nous avons pris la décision de mettre la prière au centre de la vie de l'Église. C'est-à-dire que nous rentrons dès à présent dans la confiance en Dieu, la communion et être le champ de l'œuvre de Dieu. Ce qui est formidable dans tout cela, c'est que le Seigneur nous laisse une grande liberté. Une grande liberté dans la manière de mettre en œuvre notre vie de prière. La parole de Dieu ne nous donne pas de recette. Il nous encourage dans la manière de prier. Mais il ne nous donne pas de recette, ni de planning, ni de timing. En disant, ben voilà, tous les mois vous allez faire ça, ça, sur cette durée-là, et puis... Non, pas du tout. Ou encore, il ne nous donne pas de lieu particulier. Nous pouvons prier ici, nous pouvons prier à côté, nous pouvons prier chez nous, nous pouvions prier au travail. L'accent est mis sur la considération, sur la prise de décision et sur la mise en pratique concrète d'une vie de prière comme l'expression de notre entier attachement au Seigneur. Et nous croyons, le pasteur, les anciens, le conseil, mais aussi les responsables de l'Église, que nous devons faire cela au travers d'actions concrètes qui viennent, si je puis dire, réaliser notre prise de décision. Vous l'avez vu depuis plusieurs mois, nous avons désormais deux réunions de prière qui jalonnent notre vie d'église. Un rassemblement de prière le dimanche matin et un rassemblement de prière le lundi soir dont Michael et Nicolas ont été moteurs. Deux temps, deux occasions de nous mettre plus particulièrement devant le Seigneur, de mettre à l'épreuve notre foi, de grandir dans la communion et de laisser l'Esprit agir. Nous avons aussi pris la décision de commencer cette année par une semaine de prière, au travers d'un parcours de prière en église plus personnel et d'un temps de prière quotidien chaque jour avec des sujets qui touchent la vie de l'église. Éric vous en parlera tout à l'heure. L'occasion donc d'exercer notre confiance en Dieu dès à présent, notre communion et de participer à l'œuvre de Dieu pour l'église. Soyez certains que si vous vous mettez devant Dieu avec sincérité, en le recherchant, cette fin de semaine qui vient ne sera pas la même qu'elle a commencé, de la manière dont elle a commencé. L'Esprit de Dieu agira en vous de manière concrète. Et nous sommes véritablement convaincus de la sagesse, de l'amour, de la bonté et de la puissance de Dieu. Et nous croyons important que l'Église entière, c'est-à-dire le corps de Christ, prenne la pleine mesure de cela. Et nous vous encourageons à prendre part ensemble à cette décision de prier. C'est un encouragement merveilleux que de pouvoir ensemble prier et s'attendre au Seigneur. Et nous voulons vous encourager aussi, et je crois que ça va dans le sens de cette prise de décision de prier de manière plus particulière. Nous voulons vous encourager aussi pour que l'ensemble de nos rassemblements, nos réunions d'église, les écoles du dimanche, les groupes de maison, les groupes de jeunes, l'étude biblique, commence par la prière. C'est un encouragement. Alors ce n'est pas pour faire un rite, une obligation, mais c'est comme ce désir que l'ensemble de nos rassemblements sont les lieux de l'expression de notre confiance en Dieu, de notre communion avec lui, et participent chacun pour leur part, de manière significative, à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour cette ville. C'est un encouragement pour chacun et chacune d'entre nous. Je veux vous laisser avec ce verset pour terminer, ce verset que Paul donne à l'église de Colosse et que je vous donne aujourd'hui. En Colossiens 4, verset 2, Paul écrit « Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Que la prière soutienne votre persévérance. » Merci.